Bonjour à toutes et à tous, la grande table d'été tous les jours, deux parties avec au milieu une session musicale en direct aux alentours de 13h30. Leïla Makkala s'installera avec son violoncelle dans le studio pour un titre en direct, puis nous tirerons le portrait de Andrew Todd, architecte dont la dernière réalisation est un théâtre élisabétain en bois. Mais tout de suite, les Soquettes Légères, on célèbre la petite reine. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, il y a 24 heures, moi non plus. Bref, on parle vélo avec Guillaume Brac. Bonjour, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé Le Repos des Braves qui était présenté au FID la semaine dernière, un moyen métrage documentaire sur le cyclisme amateur. Aurélien Bélanger, bonjour à vous. Bélanger, vous êtes romancier. Votre dernier roman s'appelle L'Aménagement du territoire et il a paru chez Gallimard en 2014. Et Alexandre Pedro, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Pédale, revue de cyclisme de bonne facture. Alors dimanche, c'est la fin du Tour de France. On se plaint beaucoup du manque de suspense et du caractère ennuyeux de cette édition, quoique j'ai l'impression qu'on s'en plaigne régulièrement. Est-ce que vous trois, il y a quelque chose qui vous a particulièrement intéressé dans cette édition, Alexandre Pedro?
Je pense qu'elle se résumera à une image de 20 secondes qui est Chris Froome courant sur les pentes du Mont Ventoux. On restera sûrement cette image qui est vraiment extraordinaire. Sinon, ça a été assez conforme au schéma actuel du cyclisme, surtout sur le Tour de France, qui est une course qui a le plus d'enjeux. Et on se plaint souvent que les coureurs ont plutôt peur de perdre et donc défendre leur position. Donc c'est pas nouveau. Cette édition est peut-être encore plus marquée sur cet attentisme, avec un coureur qui a pris le maillot jaune assez tôt, Chris Froome, qui est plus fort que les autres qui sont un peu résignés. Donc finalement voilà, c'est le Tour de France tel qu'il est depuis quelques années.
Aurélien Bélanger, vous l'avez tweeté cette image de Chris Froome avec son vélo à la main.
Oui, effectivement, c'est effectivement assez dingue. C'est le niveau de volonté, de victoire, de continuer à courir pour pas perdre quelques précieuses secondes, c'était fou. Une autre image assez marrante, c'est la flamme du kilomètre qui s'abat sur Adam Yates, je crois, et qui tombe vraiment sur lui, comme une attaque dans un film d'extraterrestre qui attaque les âmes, elle tombe vraiment pile sur lui, comme si elle allait l'absorber. C'était plutôt marrant. Et l'autre image qui reste, c'est qu'il y a quand même une petite tension dans le cyclisme en général. C'est entre les gens qui veulent le tirer vers du côté du sport un peu branché, un peu sympa, et de l'autre côté, le truc un peu à l'ancienne, avec des maillots moches, le Tour de France qu'on connaît. On avait l'impression que c'était bon, que c'était un peu acquis, que c'était devenu un peu joli. Et on tombe sur l'abominable descente de Chris Froome pendant je ne sais plus quelle étape, où il attaque en descente, et surtout, il descend de façon complètement atypique, et franchement assez moche. Donc on se dit, merde, on revient à un sport un peu de batracien, alors qu'on pensait avoir gagné.
Il descend en pédalant, c'est à ça que vous faites.
Il descend en pédalant et surtout assis sur son cadre de façon assez bizarre, pas complètement atypique. Moi, je l'avais déjà vu sur le Tour de France, mais déjà, c'est hyper dangereux de le reproduire. Et puis ensuite, ça manque un peu de grâce. Ouais.
Guillaume Brac.
Moi, il y a cette image aussi là, de Chris Froome en train de courir, mais de manière plus intime. Moi, je retiendrai que le Tour de France a gravi à deux reprises le Grand Colombier et que c'est le premier col vraiment dur auquel je m'étais attaqué, moi, quand j'étais adolescent. Donc voilà, c'était plus ce souvenir-là de voir ces champions dans ce col-là. Quoi.
Alexandre Pedro, dans le numéro de Pédale qui a apparu pour cet été, vous avez imaginé un Tour de France, puisque vous notez les étapes et puis vous imaginez évidemment les vainqueurs. Donc le vainqueur, ça aurait été Nairo Quintana. Bon, c'est pas le cas.
On n'a jamais eu le bon vainqueur en 6 ans. Hein. On n'est pas très bon, on est plus guidé par l'amour de la blague et autre chose.
C'était juste une blague ou vous auriez
Non, je pensais vraiment que Quintana pouvait gagner. Je ne souhaitais pas, je pensais qu'il pouvait gagner ce Tour de France. Je pense qu'il est aussi fort que Froome, mais il y a quelque chose de l'ordre du mental chez Quintana. Je le sens un peu résigné, ça se voit sur son visage. Voilà, il a 26 ans, on a l'impression qu'il en a 35, et quand il parle, on a l'impression qu'il en a 50. Et quelque chose d'assez résigné chez lui. C'est un personnage qui m'inspire pas grand-chose, finalement, au-delà de ses qualités de cycliste. Parce qu'il est colombien, on attend de lui, finalement, qu'il soit un petit peu... qu'il amène du spectacle, qu'il amène une sorte de folklore. Alors, c'est un coureur, finalement, très, très terne, très en deçà d'un Froome, qui est un personnage qu'on se prend à aimer avec le temps. Pas aimer, peut-être apprécier. On se rend compte qu'il a certaines aspérités, qu'il fait du spectacle, bon, parfois sans le vouloir. Donc voilà, je commence à apprécier Froome et je trouve qu'il y a moins de haine envers Froome par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était fait. Il a reçu de l'urine dans le visage, on l'insultait. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu calmé au niveau du public français.
On pourrait se demander si Froome n'a pas un excellent directeur de la communication, parce que justement, il fait des choses qu'on ne s'attendait pas du tout à le voir faire, un peu comme s'il essayait de redorer son blason, parce que c'est pénible pour lui d'être le vainqueur chaque année, mais d'être le perdant dans les cœurs de tous les amoureux de vélo. Du coup, là, en effet, il se met à attaquer en descente, il se met à...
Oui, il a hérité du rôle du méchant qui était celui de Lance Armstrong pendant quasiment 10 ans, sauf qu'Armstrong est un vrai méchant, il est choité profondément, cynique, dur, ce qui n'est pas le cas de Froome, qui est un brave type, qui a été élevé au Kenya, qui a fait du vélo en Afrique du Sud, et ce n'est pas son personnage, donc on lui a donné ce rôle, et il n'est pas fait pour ce rôle-là, donc du coup, il essaie de changer de rôle, et je pense qu'il est plus à l'aise dans ce rôle actuel.
Est-ce qu'il y a toujours des grands personnages du cyclisme quand vous parlez de Froome et de Quintana? On a l'impression que ce sont des personnages ou en demi-teinte ou carrément insipides. Est-ce qu'il y a encore des grandes figures?
Je suis sur le test de demander à quelqu'un qui n'est pas un amateur de vélo de citer des coureurs actuels. Ça va être compliqué. Le seul qui amène quelque chose d'un petit peu différent, c'est Peter Sagan, donc qui est plutôt un sprinter et qui a des cheveux longs, qui est vraiment pour le coup dans la culture de l'entertainment. C'est quelqu'un qui chaque jour se dit je vais faire quelque chose de différent pour faire parler de moi. Sauf que c'est très naturel chez lui. Et lui, les gens l'apprécient parce que il y a un petit peu de fraîcheur, il y a des gestes complètement gratuits. Mais il y a moins de personnages complexes comme pouvait l'être par exemple un Fignon, un Thiel. C'est des personnages plus lisses, j'ai l'impression, et moins complexes.
Je dirais quand même qu'il y a Nasser Bouhanni
qui est pas sur le tour malheureusement.
Voilà, qui est pas sur le tour parce que malheureusement il s'est bagarré dans un hôtel.
L'histoire est assez folle en fait, la raison pour laquelle il est pas sur le tour.
Oui, c'était la veille des championnats de France, pendant la nuit, donc à quelques heures de son réveil, il a été réveillé dans le couloir par des gens qui rentraient d'un mariage et après c'est un petit peu obscur ce qui s'est passé véritablement, mais il y a eu des échanges de coups de poing, il a été emmené à l'hôpital pour des points de suture, ça s'est infecté, etc. Et résultat, il a déclaré forfait pour le Tour de France. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui, déjà, est un des rares cyclistes du peloton français qui vient de banlieue. C'est aussi quelqu'un qui est tellement mauvais perdant que ça en devient presque...
pathologique.
Ouais. Ou pathologique, mais finalement touchant et sympathique, parce que, enfin, sympathique, je sais pas, mais en tout cas touchant, parce que c'est quelqu'un qui échappe complètement à un certain discours formaté, lisse, politiquement correct, etc. Et c'est quelqu'un qui a du relief, quoi, voilà. Il y a finalement, c'est vrai, pas beaucoup de coureurs qui ont du relief.
Aurélien Bélanger, est-ce qu'il y a des personnages dans le cyclisme qui vous intéressent?
Moi, je reste marqué par un documentaire que j'ai vu il y a 2-3 ans sur Bernard Hinault, qui a pour moi résumé l'essence du cyclisme. C'est complètement tautologique. Le type dit j'étais le meilleur, j'ai gagné. Sur là, j'avais les jambes, donc ça allait mieux. Gagner une course, c'est aller plus vite que les autres. Et il enchaîne comme ça les banalités, mais avec un tel niveau de génie dans la banalité qu'on comprend un truc du cyclisme, c'est que c'est un sport. Finalement. Il y a des techniques de course, il y a beaucoup de choses, mais c'est finalement, on appuie sur les pédales de façon régulière et on tourne. Donc, il y a un moment, c'est rapidement, on bute sur le mur physiologique. Et si la physiologie répond, on est bon. Si la physiologie répond pas, on répond pas. Donc, passer effectivement l'aspect technique, le jeu des équipes, etc. Il y a un truc très bête et très tautologique chez le cyclisme, qui est pour moi parfaitement incarné par le discours, la platitude absolue du discours de Bernard Hinault. On peut peut-être pas dire beaucoup plus que j'étais bon, j'avais les jambes. J'avais pas les jambes, j'étais pas bon. Ouais.
Alors moi j'ai appris que le grand style, parce qu'il existe quand même du style en cyclisme, ça s'appelait le panache. Qu'est-ce que ça veut dire le panache, Alexandre Pedro?
Je ne sais pas si c'est un mythe quasiment le panache. Le panache, c'est-à-dire un acte gratuit, c'est-à-dire je fais quelque chose qui ne me rapporte pas au niveau comptable, au niveau financier, au niveau un gain de temps. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient, c'est très français j'ai l'impression le panache, c'est-à-dire... on va s'échapper à 120 km de l'arrivée, on a très peu de chances de gagner, mais on va le faire parce qu'il faut, il faut le faire. On va dire que quelqu'un comme Bernard Hinault avait du panache, parce que quand il gagne les bastonnages sous la neige, qu'il perd une sensibilité sur ses phalanges, on va dire que c'est un acte de panache, mais lui, il ne le voit pas comme ça, il voit juste qu'il y avait une course à faire, il a fait, il a terminé, il a gagné. Donc c'est sûr que le cyclisme actuel, surtout avec les oreillers, donc c'est les directeurs sportifs qui donnent leurs ordres aux coureurs, est pas vraiment fait pour le panache. C'est-à-dire que chaque coureur se dit, bon, j'attaque à 2 km de l'arrivée parce que demain il y a une étape avec 4 cols, donc j'économise mes forces. On est plus sur un cyclisme de petite épicie, on va dire, actuellement.
Mais en fait, on peut gagner sans panache ou gagner avec du panache. On va dire que gagner avec du panache, c'est gagner en risquant de perdre. Et gagner sans panache, c'est gagner sans prendre le moindre risque. En effet, en attaquant dans les 500 derniers mètres, et au pire, on perd ou on gagne quelques secondes. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, peut-être que dans le fait que le panache ce soit pour rien ni pour. Enfin, on peut gagner avec du panache, quoi. Simplement, c'est vrai.
C'est plus le style finalement que le panache. C'est la manière dont on gagne avec un certain style et le romantisme qui est autour de ça. Et j'ai l'impression que depuis, si je me remémore finalement les 10-15 derniers tours de France, j'ai pas le souvenir d'un vainqueur vraiment avec un panache particulier. Il y a eu certains coureurs qui ont fait des numéros de panache, mais à la fin, c'est pas eux qui ont gagné le Tour de France.
Il y avait Andy Schleck.
Il fait deuxième finalement.
Mais c'est pas le tour, il gagne finalement
sur des classements. Dedans, ouais. Être technique, mais voilà.
Et donc, il n'y a pas de style. Faire du vélo, c'est juste appuyer sur des pédales. Pourquoi vous regardez, par exemple, pourquoi vous regardez le Tour de France? Non, c'est une vraie question. Pourquoi vous regardez le Tour de France?
Aurélien, parce que ça dure longtemps. Hein, et c'est une bonne excuse pour rien faire pendant 5-6 heures l'après-midi. Ça tombe. Moi, ça tombait, quand j'étais enfant, ça tombait au moment où je m'ennuyais en vacances. Bah, je vais continuer, quoi, l'excuse de m'ennuyer au moins une fois par an. Enfin, je m'ennuie pas complètement, mais bon, il y a effectivement un truc de durée. C'est rare de regarder une étape en entier. Mais tout pendant qu'elle n'est pas arrivée, je fais rien non plus d'autre, quoi.
Guillaume Rec.
Moi, je pense que quand j'ai commencé à regarder pendant l'enfance, c'était une espèce de porte ouverte sur à la fois évidemment des lieux de France que je connaissais pas. Je me souviens que c'est des lieux qui après ont gardé une aura presque un peu mythique, mythologique à mes yeux. J'avais jamais été dans les Pyrénées, donc je voyais les Pyrénées à travers le Tour de France ou le Massif Central ou le nord de la France. Et du coup, c'était évidemment pour un enfant qui vivait dans un petit périmètre un moyen de découvrir un territoire immense. Et puis, pour moi aussi, qui ai grandi dans une petite ville des Yvelines, assez tranquille, plutôt bourgeoise, c'était aussi une porte ouverte sur tout un monde, toute une culture populaire que, voilà, qui était une sorte de bouffée d'air pour moi. Donc, le Tour de France, c'est ça aussi.
Guillaume Brac, vous avez donc présenté au FID, qui est le festival du film à Marseille, qui s'est tenu la semaine dernière, un documentaire qui s'appelle Le Repos des Braves. Vous suivez une course amateur alpine à laquelle participent des retraités. On en écoute un extrait.
Il y en a qui arrivent à rigoler, à déconner, à raconter des vannes là, sur le vélo. Moi, je peux pas, moi. Moi, j'ai mon cadre de fréquence mètre, je me connais, je sais ce que je peux faire. Moi, j'ai pas des capacités physiques extraordinaires, hein, mais ce que j'ai, je gère. Hein, je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Hein, je sais qu'il faut le temps. Quand je m'entraîne, je roule à une certaine manière. Et voilà. Et puis je reproduis cet effort sur mon vélo. Donc, je suis toujours très concentré. Voilà. Alors, entendre une vanne, une blague belge, j'ai pas envie.
Il rigole, le personnage, mais en fait, il est assez triste, Guillaume Brac. Et votre film, de manière générale, est un film assez mélancolique. Il y a vraiment quelque chose de très nostalgique, déjà, parce qu'il y a des images d'archives. Et puis, au final, tous ces personnages font référence à un passé du vélo. Et puis, il y a ce cycliste, je me souviens plus si c'est lui ou pas, qui raconte à quel point la retraite est difficile pour lui. Il conduisait des poids lourds et il se retrouve à faire du vélo pour compenser une sorte, justement, d'appel d'air qui lui manquait.
Oui, alors bon, celui qu'on entend là, qui est assez drôle, c'est un professeur de chimie à la retraite. Enfin, ce qui est assez amusant et intéressant, c'est de voir en fait les liens qui peuvent exister entre la pratique que peuvent avoir tous ces personnages du vélo et leur ancienne vie professionnelle. Parce que je me suis intéressé en fait principalement à des retraités et à des cyclistes amateurs qui essaient un peu de repousser, on va dire, l'inéluctable et le moment où ils n'auront plus d'autre choix que de rester assis sur leur canapé, et là pour eux c'est la fin. Et ce qui est drôle avec ce professeur de chimie, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, un peu psychorigide, et il y a un lien évident entre son métier de professeur de chimie, son goût comme ça des sciences, de l'expérience, et puis son rapport au vélo, rivé sur son cardio-fréquence-mètre et tout. À côté de ça, il y a aussi en effet un ancien chauffeur routier à la retraite, enfin, qui dit de façon, je trouve assez émouvante, qu'il n'a jamais voulu rester enfermé dans une usine, que lui, il a tout de suite voulu prendre la route et rouler vers l'horizon loin. Et en effet, une fois la retraite venue, sa seule porte de sortie, ça a été de monter sur son vélo et même de continuer à longer l'autoroute du Sud qu'il empruntait comme chauffeur routier. Et pendant des mois et des mois, il faisait le même trajet pour voir un peu les camions passer. Et le film est assez mélancolique parce que c'est quand même des gens qui ont l'essentiel de leur vie derrière eux et qui essayent comme ça de grappiller encore quelques moments de liberté, quelques moments d'aventure, et qui voient quand même que l'horizon qui reste devant eux est un peu bouché par la vieillesse, quoi. Voilà.
Vous, j'imagine, vous faites aussi du vélo, en tout cas Aurélien Bélanger, je vois ses performances de vélo sur Twitter. Est-ce que vous avez ce type de pratique un peu mélancolique du vélo, du cyclisme ?
Oui, dans la mesure où j'ai commencé le vélo à 35 ans, 34-35 ans, donc je sais que je ne gagnerai jamais le Tour de France, je sais que mes grandes performances sont derrière moi. Après, je sais que c'est un sport plutôt généreux avec le vieillissement et que le fait qu'on est assis, etc., on peut continuer à faire du vélo sérieusement jusqu'à 60-70 ans. Donc, là-dessus, j'ai un rapport mélancolique. Après, non, c'est plutôt de la pulsion. Quand j'ai acheté mon vélo, j'en rêvais la nuit. Le lendemain, j'avais envie de faire du vélo. Je faisais du vélo bêtement, quoi. Je voyais des jolies choses. Je tournais en Île-de-France. Et le soir, je revoyais ce que je faisais. J'avais envie de repartir. Donc, il y avait quelque chose. C'était plutôt même l'inverse de la mélancolie. C'était une sorte de pulsion de vie. Assez même inexplicable, hein. Le fait que au bout d'un moment on atteint un équilibre parfait entre les premières douleurs musculaires et l'arrivée très forte de je sais pas quelle drogue, de l'endorphine je crois, qui compense les plaisirs, donc au kilomètre 40 ou 50 on a des états de joie et de grâce complètement improbables, c'est assez drôle, donc tout ça fait que d'un pur point de vue chimique je me suis retrouvé assez vite
Guillaume Braque.
Pratique mélancolique non, en fait, moi, c'est souvent quand même des grands moments de joie quand je monte sur mon vélo. Alors moi, je suis passionné par la montagne, par les cols, et puis aussi par les espèces de voyages par étapes comme ça. Quand je pars une semaine, souvent tout seul, puis je sais jamais très bien où je vais dormir à l'avance, et puis je traverse des régions comme le Massif Central et tout assez désert. Mais à chaque fois, c'est des moments de très grande exaltation. Alors après, c'est aussi des moments de solitude, donc il y a aussi tout un rapport, un retour sur soi. Alors c'est en ça peut-être que c'est mélancolique, mais les endorphines, ça, c'est efficace, quoi. On est très très heureux quand on arrive au sommet d'un col. C'est des joies même assez immenses, en fait. Hein. C'est des moments de bien-être profond, quoi.
Alexandre Pedro, vous, est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, du vélo en équipe? Je pense que c'est pas le cas de
Guillaume. J'ai très peu pratiqué le vélo. J'en faisais un petit peu autour de chez moi quand j'habitais à côté de Blagnac, en Haute-Garonne. Et je vis depuis 15 ans à Paris où, finalement, j'ai jamais pratiqué le vélo. Donc moi, ça reste... Enfin, je crois que j'ai jamais eu la révélation. C'est comme la foi, j'aime le vélo sur mon canapé, mais j'ai jamais eu la révélation au niveau de la pratique. Et ce que décrive Guillaume, c'est plutôt de l'ordre. C'est plus valable pour le cycliste, enfin dire le cyclotourisme. Je pense que le professionnel, lui, cherche autre chose. Le grand champion, c'est surtout ce moment-là où, dans un col, il sait qu'il est au même niveau que ses adversaires, il sait qu'il peut encore accélérer. Il sait qu'il en a encore un petit peu sous la pédale, et là, il accélère. Et là, je pense, quand on va parler de certains cyclistes, il y a une vraie jouissance. C'est-à-dire ce moment-là, où on sait on va démarrer, on démarre et on lâche ses adversaires. Et on voit la souffrance de l'adversaire, on voit qu'on est plus fort qu'eux. Et ça c'est vraiment ce que je pense que recherchent les grands champions.
Vous filmez donc des cyclistes, c'est pas la première fois d'ailleurs dans vos précédents films de fiction, il y a aussi des gens sur des vélos, je pense à Tonnerre particulièrement, où je crois que c'est Vincent Macaigne en fait qui circule en vélo.
Non, en fait c'est son père Bernard Ménès, ouais. qui vit solitaire dans une petite ville de province et qui fait du vélo, ouais, et qui entraîne son fils à la fin du film.
Ouais. Et du coup, vous le filmez à la fois un peu comme quand on voit des images de cyclisme à la télévision et que ce sont des images sportives, c'est-à-dire par derrière. Vous les filmez aussi sur le côté. Quel protocole ou dispositif de cinéma vous aviez mis en place pour bien les filmer, Guillaume Braque?
Alors, ce que vous dites, ça vaut peut-être plus pour le film documentaire, parce qu'en fin de compte, dans mes films de fiction, ça se résume à quelques plans vraiment de vélo. J'ai fait un court-métrage dans lequel le personnage, du début à la fin, est en costume cycliste. Le naufragé, mais justement il est naufragé, son vélo est crevé et du coup il est obligé de passer 24 heures sans pouvoir se changer en tenue de vélo. Mais comment je filme le vélo dans le documentaire, en effet c'est très différent d'une retransmission télévisée. Déjà c'est pas vraiment une course, c'est plus une sorte de traversée, de randonnée, donc il y a pas d'histoire de classement de temps et tout ça, et finalement les cyclistes sont assez espacés les uns des autres, il y a quelque chose d'assez solitaire dans ces cyclistes. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de filmer des temps longs, de faire des plans longs pour rester, pour vraiment rentrer dans la durée de l'effort. Parce que, par exemple, grimper un col, pour quelqu'un qui n'a pas un haut niveau, c'est une heure et demie, deux heures d'effort extrêmement répétitif. Et j'avais envie qu'on puisse un petit peu rentrer dans cette durée-là, quoi, de l'effort. Et pas changer de plan sans cesse, changer de coureur sans cesse, mais rester avec quelqu'un. Et puis en plus, comme c'est des gens qui sont aussi beaucoup dans une espèce de quête, de un petit peu d'aventure comme ça, de découverte d'un paysage, c'était souvent rester derrière eux finalement longtemps et découvrir avec eux lacet après lacet en fait ce paysage qui
vous étiez en voiture, vous étiez en moto, vous étiez
alors moi il se trouve que j'avais fait l'année précédente exactement le même parcours sur le vélo, mais pas du tout dans l'optique de faire un film. C'est ce qui m'a donné envie de faire un film l'année suivante, et pour faire le film je conduisais un scooter électrique, donc j'étais une sorte de machiniste, et c'était très compliqué parce qu'il fallait rouler à leur vitesse, c'est-à-dire 6, 7, 8 km heure et garder l'équilibre. Mais moi, je pense que c'est l'avenir pour les retransmissions du Tour de France, parce que c'est quand même complètement fou, toutes ces motos qui, en plus, obligent à faire du son. Enfin, c'est pas du son direct, parce que ça pourrit le son, les moteurs. Et je pense que dans quelques années, on aura des scooters électriques pour filmer le Tour de France, et peut-être qu'on pourra de nouveau entendre le souffle des coureurs et être beaucoup plus proche d'eux.
Des caméras embarquées également sur les vélos, ce qui est, a priori, la nouvelle façon de filmer la course, parce que... Finalement, les techniques de retransmission ont assez peu évolué. En France, on a de la chance, le Tour de France est mieux filmé que d'autres courses à l'étranger. Mais il y a quelque chose qui contribue finalement au fait qu'il y ait moins de personnes dans le vélo, c'est le casque. Le casque est obligatoire depuis une quinzaine d'années.
Et les lunettes.
Casque et lunettes, finalement, les champions cyclistes sont des champions sans visage. Moi, j'en parlais avec des consultants d'Eurosport, et ils me disaient... si je croise le dernier vainqueur du Tour des Flandres dans la rue à Anvers, je ne le reconnais pas. Parce que sans leur casque, il n'y a plus de visage, et donc l'émotion se fait plus à travers la retransmission télé. Et ça, c'est un vrai problème du vélo, c'est comment transmettre cette émotion-là. Et donc peut-être la caméra embarquée va capter quelque chose que ne capte pas pour l'instant les vues de moto ou d'hélicoptère.
Mais c'est une vraie question, parce que moi je sais par exemple que j'avais demandé expressément aux cyclistes que je filmais, à chaque fois qu'ils voyaient le scooter électrique arriver à leur hauteur, de retirer leurs lunettes de soleil, parce qu'il y a quand même tellement d'émotions qui passent par le regard, que sans le regard ça devient, en plus c'est quand même des vieux cyclistes de 60 ans, alors s'il n'y a même plus le regard, c'est pas les corps qui vont nous faire rêver, quoi. Mais du coup je réfléchissais à ça, je me disais, mais est-ce que ce serait un peu les jeux du cirque d'obliger des professionnels qui passent 3 semaines sur leur vélo à rouler sans lunettes? À la fois je me disais, mais c'est étrange, parce que il y a 20, 30, 40 ans, les cyclistes professionnels n'avaient jamais de lunettes. Alors, est-ce que pour autant, ils avaient la pupille brûlée par le soleil? Je crois pas.
Il n'y a pas de contrat avec des marques de lunettes à l'époque. C'est sans doute la raison principale. Parce que même quand il fait mauvais, ils gardent leurs lunettes de soleil.
C'est ça qui est fou. Et ils les gardent même pour les interviews post-course, souvent. Ce que je trouve complètement délirant. Enfin, c'est de voir un coureur avec des espèces de masques réfléchissants comme ça s'exprimer. Enfin, je trouve ça extrêmement déprimant.
Mais... C'est-à-dire que ça encourage en plus cette truc qui a été encore plus prégnant depuis les affaires de dopage, que ce ne sont pas des humains. Enfin, quand on regarde une course cycliste aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce ne sont pas des humains.
L'équipe de Froome, qui s'appelle la Sky, c'est une équipe qui domine le Tour de France depuis 5-6 ans, d'abord avec Wiggins, puis Froome, et qui domine globalement le cyclisme actuel. Ils sont tout en noir, et donc ils donnent cette impression un peu de froideur, de Men in Black, quand ils arrivent, ils ont des grands bus tout noir, ils sont c'est des anglo-saxons, donc bon, pas des gens forcément très très abordables dans leur coin, et donc ils ont développé un peu du coup cette image de coureur un petit peu hors sol, inatteignable,
Android,
ouais, des robots, c'est-à-dire, c'est le papier qu'on a fait dans Pédale, c'est un peu humain après tout, on avait titré sur Froome, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'humain chez ce personnage-là, et donc c'est c'est vrai que le cyclisme actuel manque d'incarnation. Et c'est, je ne sais pas comment on peut lui, à nouveau lui donner un petit peu ce caractère plus humain.
Je reviens au film, il y a eu beaucoup de films faits sur le vélo, enfin pas forcément d'ailleurs sur le vélo, mais avec des personnages qui sont sur des bicyclettes. Il y a Parpaillon de Luc Mouillet que j'aime beaucoup. Merci. Et puis récemment, il y a eu The Program de Fincher sur Lance Armstrong, justement. Est-ce que c'est des films que vous avez vus et qui vous ont inspiré? Bon, Parpaillon, j'imagine, c'est un col en plus.
Ouais, Guillaume Braque. Parpaillon, c'était une de mes références pour ce film que j'avais revu avec le chef opérateur, et il y a quelque chose d'à la fois épique et facétieux dans le film qui est très sympathique, quoi. Enfin voilà, et c'est à la fois pour spécialistes, parce que c'est tous les petits trucs du vélo, et puis à la fois il y a quelque chose de tellement fantaisiste que c'est aussi un peu plus universel. Moi personnellement, The Program, c'est un film de Stephen Frears que j'ai trouvé épouvantablement mauvais. Je trouve que c'est le film de quelqu'un qui ne connaît rien au vélo, d'ailleurs il le dit lui-même, et je trouve ça complètement dingue de prendre par exemple des acteurs avec ce type de morphologie qui ne correspondent absolument pas à des morphologies cyclistes. Je trouve que les courses de vélo sont épouvantablement mal filmées. Enfin, pour un amoureux du vélo, et c'est pas du tout à cause du sujet, c'est vraiment à cause de la manière d'incarner ces coureurs cyclistes. Je trouve ça le niveau zéro, quoi. Enfin, mais on sent qu'il aime pas, tout simplement. Il aime pas ce sport, il aime pas les gens qui filment. Enfin,
ouais. Je l'ai revu hier. J'ai pas aimé du tout. Je me suis quand même infligé une nouvelle fois. Et y a des choses pour un amateur de vélo qui font tâche. C'est-à-dire qu'à un moment, Lance Armstrong fait la Flèche Wallonne, qui est une course dans les Ardennes. Et à un moment, sauf pendant la course, il passe sur des pavés de Paris-Roubaix. Et donc, ce qui est impossible, parce qu'entre Paris-Roubaix et les Ardennes, il y a quand même une petite distance. Et donc, quand vous voyez ça, vous dites, non, vous avez envie de quitter la salle. Ce qui est dommage, parce que l'acteur principal qui joue Armstrong est plutôt convaincant dans son
genre. C'est
dans
Matt Damon?
Non, il lui ressemble, c'est un peu un sosie.
C'est Matt Foster qui jouait... Ben Foster qui jouait dans Six Thunder, qui jouait le petit ami de la plus jeune sœur de la famille, Fisher. L'acteur est plutôt convaincant, mais c'est le problème de beaucoup de sports, c'est comment recréer au cinéma ce qu'on, nous, on est habitué de voir en tant que téléspectateur ou spectateur, et... Il y a le même problème sur le foot, le rugby. Le seul sport qui arrive finalement à transcender ça, c'est la boxe. Mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais autres, c'est compliqué.
Aurélien Bélanger, je sais que vous êtes cité à la fin du film de Guillaume Braque. Ça a été quoi votre collaboration sur le film? Ça a fait beaucoup rire Guillaume Braque.
J'ai vu un montage, comme on fait souvent, on est convié à voir un montage pas fini du film pour donner son avis, un point de vue extérieur.
Ouais. Mais c'était quoi votre avis?
C'était moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu par rapport à une réflexion que j'ai sur la science du vélo. C'est je sais pas si c'est resté à la fin du film, mais à un moment on voit les cyclistes arriver, je crois, ils sont à Nice, donc ils marchent sur une plage de galets, et donc comme on marche sur une plage de galets, on a mal aux pieds, et ils ont ce réflexe qu'on a tous quand on marche sur une plage de galets, observons-nous, on lève légèrement les mains et on lève presque les petits doigts comme si on voulait voler, et c'est comme si on contrôlait avec ses doigts l'équilibre. Et je trouve ça très beau, parce que le vélo, c'est avant tout c'est une prodigieuse sens de l'équilibre. J'ai lu un article, j'ai un peu bossé mon émission, j'ai lu un article de la revue Nature il y a deux jours sur un ingénieur américain qui s'appelle Papadopoulos, je crois, qui cherche depuis 30 ans à théoriser l'équilibre en vélo, parce qu'on ne sait pas exactement comment fonctionne un vélo mathématiquement. Et donc je trouve ça très beau qu'on passe rapidement du passage dans l'école à ce problème d'humain, que les humains ont avec l'équilibre, et on arrive avec cette chose géniale avec les vélos, c'est qu'un vélo seul tient en équilibre, et on sait pas trop pourquoi. On a longtemps pensé que c'était l'effet gyroscopique des roues qui faisait qu'elles conservaient leur moment angulaire, etc. On a fabriqué des vélos à roues anti-gyroscopiques qui tournaient à l'envers en même temps pour inverser l'effet, les vélos continuaient à tenir. On a longtemps pensé que c'était le fait que la fourche avant, elle était légèrement rebiquée vers l'avant, et que cet écart faisait que le vélo s'auto-contrôlait vraiment comme un automate cybernétique. Apparemment c'est pas ça, etc. Et les recherches sur le vélo sont complètement balbutiantes. Et ce qui est génial, c'est que le vélo, on l'a inventé à peu près en même temps que l'avion, à peu près en même temps que la voiture, uniquement par un processus d'essai et recherche. Et ce qui est un peu miraculeux avec le vélo, c'est que si on accepte quelques faux dessins dus à Léonard de Vinci, a priori ça n'existe pas. Le vélo aurait pu être inventé au Xe siècle, aurait pu être inventé dans l'Antiquité. Le vélo est inventé de façon très tardive. L'une des explications possibles, c'est que pour faire des bons vélos, il faut des bons roulements à billes, et qu'aujourd'hui on arrive à des roues qui tournent dans le vide à 6 minutes, comme ça dans l'air, avec juste le frottement de l'air, grâce à la qualité des roulements à billes. Donc il faut ça. Il reste un problème dans l'arbre technologique. Le vélo est inventé beaucoup trop tard, Et en même temps, il est inventé et il devient prodigieusement efficace aussitôt. Et donc, on peut l'améliorer, etc. Et c'est un des rares, c'est un des plus jolis outils qui existent. C'est aussi ça qu'on parle beaucoup du cyclisme, la légende, etc. Mais si on reste très prosaïque, c'est l'outil est génial et c'est prodigieux de faire du vélo parce que on a une sensation de légèreté, d'absence de frottement, etc. Je me suis un peu écarté de la.
Non, mais on vous reconnaît bien là, posée, la digression technique.
Mais je voulais un peu parler de.
C'est votre spécialité.
Non, parce qu'on en fait beaucoup sur la légende du cyclisme, on ne parle pas assez de, du vélo, du rendement énergétique du cycliste.
Les bicyclettes, ça a une arme, ça a quelque chose. En plus, on va se déplacer avec. Et puis, on aime bien quand même une bonne mécanique. Une mécanique, quand ça ronronne, que ça ne fait pas de bruit, c'est un véritable plaisir. Un dérailleur qui couine, qui grince, c'est l'horreur. On a l'impression de ne pas avancer. Donc soigner sa mécanique, c'est vraiment important. Et puis je prends vraiment un grand plaisir à le faire. Pour moi, c'est une détente. D'abord, dans un atelier, on est souvent seul. Et quelquefois, on parle même un peu à la machine. Et donc, et on l'écoute. On fait dérailler la chaîne, on fait un tas de manipulations pour voir si tout va bien. Et donc, quand on a fait ce travail, on l'a bien monté, qu'elle est bien huilée, qu'elle est bien graissée. Bon, on ne résiste pas au plaisir de l'enfourcher tout de suite pour voir si tout va bien. Et quand on revient et que ça fonctionne vraiment bien, ben, on a un grand plaisir parce qu'on a un bon outil, on l'a fait soi-même et on en est quand même très fier.
Ressemble à quoi votre vélo, Aurélien Bélanger ?
C'est pas un vélo exceptionnel parce que c'était mon premier vélo. C'est un Specialized en cadre alu bleu que... très joli. Mais cette histoire de bruit, c'est fascinant. Enfin, ça n'existe pas un moyen de transport silencieux. Même quelqu'un qui court fait plus de bruit en posant ses pieds par terre qu'un cycliste avec son vélo bien réglé. Donc la question du réglage est effectivement très très fine et très délicate. Et quand j'ai un bruit quelconque sur mon vélo, c'est la panique tout de suite et je le dépose chez mon vélociste pour le réparer.
Guillaume Brac, vous avez quoi comme vélo ?
Alors, j'ai un vélo Orbea qui m'avait été offert par ma productrice après Tonnerre comme cadeau de fin de tournage. Et je dois dire qu'à la fois, j'étais très content. Et à la fois, j'avais jusque-là une grande fierté qui était de réaliser des petits exploits en termes de distance ou d'ascension de col et tout sur un vélo tout à fait bas de gamme. Et c'est vrai que le vélo, on dit souvent que c'est un sport populaire, mais ce qui est quand même assez particulier, c'est que les vélos coûtent extrêmement cher. Et je trouve que plus ça va, plus ça devient finalement un sport un peu de la moyenne bourgeoisie, parce que...
C'est de moins en moins...
Alexandre Pedro.
Avant, c'était un sport, il suffit de voir l'extraction sociale des gens comme Poulidor, Anquetil, c'est des fils de paysans, d'ouvriers agricoles. La nouvelle génération de coureurs français, c'est des gens de la classe moyenne supérieure. Et Romain Bardet, qui est le coureur français qui est cinquième actuellement, vous l'entendez parler, il a fait des études, je crois qu'il est
d'ingénieur. Ouais.
D'ingénieur, et il parle comme un diplômé de Sciences Po.
Et il lit le monde diplomatique.
Il lit le monde diplomatique, et c'est de plus en plus, les cyclistes sont voilà, des gens plus de classe moyenne supérieure. Et j'ai l'impression que ce lien avec la classe populaire, c'est un petit peu perdu. On voit très peu de cyclistes de banlieue. On voit moins en moins de cyclistes de zones rurales. Ça devient un peu un sport de hipster, finalement, le vélo, au fur et à mesure.
C'est intéressant ce que vous dites sur le caractère rural, parce qu'en effet, le cycliste, traditionnellement, est un fils de paysan.
Du Romal.
Tout à fait. Apparemment, Bernard Hinault, d'ailleurs, après sa retraite, a acheté une ferme, ce qu'on m'a dit hier. Et du coup, quel serait le lien entre le goût pour le vélo et cet attachement au terroir, alors même que paradoxalement, le vélo est une manière de s'en extraire.
Très simplement, c'est une machine à dérouler des paysages. Et ça marche très bien dans un pays comme la France, où les paysages changent tous les 80-100 km. C'est vraiment comme un curvimètre, ces appareils qu'on faisait rouler sur les vieilles cartes pour connaître les distances kilométriques avant l'invention du GPS. Le vélo, c'est un curvimètre à dimension 1 qui permet d'aller dérouler du paysage. On ne peut pas vraiment, en marchant... voir 3-4 paysages différents. C'est encore plus beau. Moi, je fais beaucoup de vélo en Ile-de-France. C'est très beau si on part du centre de Paris pour partir jusqu'aux confins de la Beauce, sur le plateau Picard ou jusqu'à la Champagne. C'est magnifique, tout ce qu'on peut voir.
Ouais. Et puis c'est vrai que les cyclistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sont extrêmement attachés en fait en quelque sorte à leur terroir, presque on peut dire, et c'est
oui, et puis les joueurs sont vraiment identifiés comme ça, comme venant de telle région ou
ville. Mais ce qui fait que c'est amusant d'ailleurs de voir que Romain Bardet lit le monde diplomatique, parce que je pense que c'est quand même un sport plutôt
de droite,
voire un petit peu réactionnaire. Il y a quand même l'attachement à la France éternelle, aux beaux paysages, aux traditions de chaque région culinaire, culturelle, etc. Et alors je sais plus quelle était la question d'ailleurs, je me souviens plus, mais c'était pourquoi, oui, pourquoi des fils de paysans
traditionnellement.
Ouais, bah, je pense que c'est en effet l'amour de son pays, mais je veux dire son petit pays, quoi. C'est, bon.
Avant la course, il y a une sorte d'émission, enfin de pré-émission qui s'appelle Village Départ, qui existe depuis fort longtemps, avec justement des chanteurs locaux.
Dont on parle dans le dernier pédale, comme ouais. Portrait de Laurent Lua.
Spécialité ouais. de région. Il y a des cuisiniers qui viennent faire la spécialité sur place.
C'est presque une
direct.
Caricature de ce que serait une sorte de France un petit peu fantasmée. Nous, on aime bien en rigoler. Parce que voilà, c'est ça donne une image, ça nous complète un peu dans cette image un petit peu ringarde du vélo. Et il y a une vraie zone, il y a une vraie friction entre des gens qui veulent rendre le vélo un petit peu plus branché et en France cette conception un petit peu à l'ancienne, un peu ringarde, Bob Cochenou, la caravane. Et c'est marrant parce que le vélo était un sport traditionnellement basé sur quelques pays, France, Belgique, Italie, Espagne. Et il y a une internationalisation depuis quelques années. Et il suffit de parler de certains acteurs du vélo, des gens plutôt des coureurs des années 80, 70. Et ils vivent mal ça. Ils disent, mais les anglo-saxons, ils n'ont pas nos connes, ils ne comprennent pas le vélo. Ils comprennent pas comme nous. Et pareil pour les coureurs dans l'ancien bloc de l'Est. Donc ils avaient une autre vision du vélo, qui est plus dans la performance, dans le résultat. Et ils ont pas toujours les codes culturels que nous, Français, Belges, Italiens, avons. Et on voit que finalement, ces gens-là ont l'impression finalement qu'on les dépossède un petit peu de leur sport.
Aurélien Bélanger, vous qui écrivez beaucoup sur la France et sur tout ce que la France peut représenter et aussi, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça fait écho, quand vous regardez le Tour de France par exemple, à ce que vous essayez de développer dans vos romans?
Je l'ai jamais connecté comme ça. Non, moi je suis un peu agacé par les gens qui disent regarder le Tour de France pour les paysages. Je pense pas que c'est vrai. Ouais. Dans ce cas-là, on regarde la carte au trésor ou des émissions.
Ah, mais je vous assure que ma grand-mère regarde le Tour de France pour regarder les paysages.
Je pense que c'est pas sincère.
Je pense que c'est France 2 qui a un peu marketé cet argument-là.
Oui, je pense qu'il y a un truc comme ça.
Et moi, ça m'énerve un petit peu que le Tour de France devienne une sorte de reportage patrimonial. Je trouve ça un petit peu pénible et en plus c'est souvent du mauvais patrimonial.
Et surtout
c'est très superficiel. On est vraiment. Alors il y a une.
Bah c'est lecture du Guide Bleu.
On met pas en perspective.
Et puis d'un point de vue littéraire, moi ça m'agace parce que c'est relié au culte qui est pour le coup un culte assez France 2 d'Antoine Blondin. Moi je suis parti une fois en vacances avec les chroniques de Blondin. C'est pas génial, c'est pas exceptionnel. C'est genre bon un type qui est plutôt bon. On sent le cagneux qui est assez bon pour relier mythe grec et cycliste moderne. Avec bon. Ça marche deux fois, ça marche pas sur 400 chroniques, et c'est une sorte d'automatisme, genre, ah, Antoine Blondin, c'est génial, la littérature, le vélo. Moi, ça m'agace un peu, parce que, bon, je pense pas que ce soit si génial que ça.
Mais, Guillaume Brac.
Mais moi, je suis pas si d'accord, enfin, je trouve que, en tout cas, moi, je sais que quand j'étais enfant, ce que je trouvais vraiment très beau, c'est que c'était découvrir des paysages. Moi, pour moi, c'est une dimension importante quand même, mais qui sont immédiatement mythifiés, héroïsés par le fait même qu'ils sont traversés par ces champions-là. C'est pas le paysage en lui-même. C'est pour ça que moi, les plans d'hélicoptère sur tel pont ou tel, je sais pas quoi, telle vallée ou telle église, je m'en fiche complètement. Et pour moi, en effet, ça, c'est un peu peut-être un dévoiement. Tant mieux si ça permet.
Et le commentaire par-dessus, qui est nouveau, qui date depuis 10 ans. Il y a un côté un peu rance, je trouve que ça mène pas grand chose et c'est une sorte d'histoire un peu pour les nuls. Voilà, j'ai du mal à comprendre l'intérêt et désormais le parcours du Tour de France est aussi dicté par des enjeux quasiment de spectacle, de paysage. On va faire un départ du Mont Saint-Michel pour faire des belles images de.
C'est un son et lumière en plein jour en fait, c'est un peu ça.
Mais c'est un peu le public fou par moment. Je trouve que c'est regrettable cette dérive un petit peu qu'a le Tour.
Ouais.
Et moi j'aime bien, moi j'adore ces courses belges dans les Flandres où le parcours est inchangé depuis des années, où on peut quasiment reconnaître le moindre virage, le moindre pavé. Et là il y a une vraie culture
Après il y a quelque chose de génial à suivre le cyclisme, c'est qu'il y a tout le temps des travelling compensés, c'est-à-dire cette figure cinématographique où on zoome en même temps qu'on fait un travelling, et les deux mouvements qui s'inversent font que le paysage grandit comme une bulle de savon autour du coureur qui reste de taille inchangée. L'effet est connu pour Les Dents de la Mer ou dans Vertigo, il y a ça. Il faudrait quasiment les compiler. Il y en a une trentaine par jour, comme la moto accélère en même temps que l'opérateur zoome. Ça c'est très joli et ça a beaucoup de charme. Et on se retrouve aussi avec des plans assez fréquemment, comme le dernier plan de la gueule ouverte de Piala avec une voiture qui quitte une ville du Massif Central, comme ça où tout se referme. malgré tout, on se rattache plutôt au moche, effectivement, plutôt qu'au viaduc de Millau 100 fois vu. On se rattache au petit pavillon moche de la banlieue d'une ville du Massif central, et puis soudain, qui nous flash comme ça, on fait « Ah, ça existe !» Donc pour ça, c'est joli. Comme les ronds-points, ça a été un vrai débat esthétique, un vrai débat urbanistique. La France, pays des ronds-points, pays défiguré par les ronds-points, etc. Bon, le Tour de France qui se met à s'écouler comme ça autour d'un rond-point, bah, c'est devenu... c'est acquis. Donc, il y a aussi...
À la fois, c'est le cauchemar des cyclistes, hein, parce que les ronds-points, c'est ce qui provoque beaucoup de chutes. Hein,
oui, mais les chutes provoquent beaucoup d'audimat
aussi. Parce que le peloton se divise en deux, puis se rejoint, etc. Parfois, on les voit d'un moment, les ronds-points, c'est...
Les arrivées de tour d'étape sont généralement, on dit beaucoup sur la France périurbaine.
Oui, ça c'est sûr.
On arrive rarement au centre-ville pour des raisons de...
Sauf à Berne. L'arrivée en Suisse était spectaculaire pour ça. On avait l'impression que le Tour de France débarquait au XIIe siècle.
Bon, on arrive à la fin de ce plateau, de cette table ronde. On pourrait, je pense, parler plus longtemps. Un petit pronostic, même si je crois que ce n'est pas très...
Oh. Moi, mon pronostic, c'est une chute dans un orage de Froome.
On compte toujours sur les chutes, en fait, oui.
Et puis, sur un miracle complètement improbable, Romain Bardet, qui du coup récupère le maillot jaune. Ce serait mon pronostic.
Non, mais je vais rester sur Chris Froome, je ne vais pas prendre de risque. Et deuxième, Richie Porte, et troisième, Romain Bardet, pour être un petit peu cocorico. Quoi. Et restant la thématique sur la France éternelle.
Quintana, stratège, il est en super forme, il a réussi à le cacher jusqu'à l'étape d'aujourd'hui.
Il attaque rue de Rivoli et il termine deuxième.
C'est possible, ce serait possible qu'il rattrape là, concrètement.
Il a 5-6 minutes, non 4 minutes
4, ouais. Je
ne sais
plus.
Ouais. Il y a une chute de Froome, oui.
Ouais, il faut
une chute de Froome, effectivement.
Mais il continuera en courant. Mais...
Merci beaucoup à tous les trois. Guillaume Braque, Le Repos des Braves est un film qui va être diffusé. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il va être diffusé?
Il vient de l'être, il était diffusé hier sur Cinéplus, mais dommage. Je pense qu'il doit y avoir des rediffusions encore.
Bon, ouais. on le cherchera. Aurélien Bélanger, votre dernier roman s'appelle L'Aménagement du Territoire et est apparu chez Gallimard. Alexandre Pedro, Pédale avec un point d'exclamation est en kiosque, ainsi que un hors-série spécial Beau Livre qui est apparu chez C. Lundy.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Como.
Et tout de suite, c'est le live qui est programmé comme tous les jours de ce mois de juillet par Boris Pinault. C'est Leila Makkala qui s'est installée dans notre studio. Elle est née à New York, elle a grandi dans le New Jersey, dans une famille d'origine haïtienne et elle a choisi l'un des berceaux du jazz pour poser ses bagages. La Nouvelle-Orléans, où elle s'est installée, irrigue son deuxième album dans lequel elle chante en anglais, en français, cajun et en créole haïtien. Leila Makkala s'est installée en studio avec son violoncelle et elle interprète pour nous « Les plats sont tous mis sur la table » et ça tombe bien. C'est en direct dans la grande table d'été. C'est à vous.
Usually pour trouver un job à rien faire. Pour trouver les plats tout mis sur la table. Une femme comme la mienne, quand je crève des faits, et après elle crève des faits, elle aussi. Les plats tout mis sur la table de ma maison. Un job à rien faire. pour trouver les plats tout mis sur la table. Où je vais aller pour trouver les plats tout mis, les plats tout mis sur la table de ma maison.
Leïla Makkala en direct dans notre studio, sur la grande table d'été. Elle sera demain en concert au Havre, puis à Châlons-en-Champagne le 24 juillet, à Paris les 26 et 27 juillet et à Mourez le 28. Son deuxième album, A Day for the Hunter, A Day for the Prey, est disponible chez Jazz Village. Merci beaucoup à vous. Et bonjour Andrew Todd.
Bonjour Lucille.
Vous êtes architecte, vous êtes aussi écrivain, vous êtes journaliste. Vous avez conçu le premier théâtre élisabétain de France au château d'Ardelot à Condette, c'est dans le Pas-de-Calais. Un théâtre en bois de forme cylindrique, en fait un double cylindre. Je vais avoir du mal à le décrire mais vous allez m'aider puisque le bâtiment est entouré d'une structure très fine en bambou qui s'élève vers le ciel. La caractéristique principale du théâtre élisabétain c'est donc d'être rond. Le public est installé de manière circulaire autour d'une scène qui elle-même est ronde. Qu'est-ce que ça permet, selon vous, de faire au théâtre, Andrew Todd ?
Alors, je pense que ça rappelle une forme primordiale de la conte. Si quelqu'un commence à raconter une histoire devant un groupe de gens, ils vont naturellement se déployer dans un cercle. Pour avoir une vue démocratique, pour partager l'expérience, pour être le plus près possible. Donc c'est la forme peut-être la plus basique du cosmos, c'est de la société humaine. Et le théâtre shakespearien a eu le génie de traduire cette forme en trois dimensions en architecture, de le verticaliser pour rassembler davantage de monde, jusqu'à 1000 personnes hein, dans les premiers théâtres shakespeariens. Pour partager l'événement, j'aime bien le terme français, pour assister, pour aider dans ce sens à la création du spectacle, que c'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, c'est quelque chose à laquelle on a été impliqué.
Vous avez déjà travaillé ce type de forme ronde ailleurs, à Londres, je crois, au théâtre qui s'appelle le Old Vic, qui a été rénové du coup récemment. À quoi il ressemblait le théâtre à partir duquel vous avez travaillé ? Qu'est-ce que vous avez changé ?
Alors, le Old Vic, c'est le plus vieux théâtre de Londres en existence, hein, qui date du milieu 19e, qui est un théâtre à l'italienne assez typique, assez étroit, assez long, et son directeur artistique, Kevin Spacey, qui en a pris les commandes en 2004, m'avait demandé de réinterpréter le plus librement possible la salle qui trouvait un peu étouffée, un peu endimanchée, un peu rigide. Et on a donc exploré toutes les possibilités formelles en cassant un peu l'ambiance historique du lieu. Alors, ça marchait pas pour des raisons financières dans un premier temps, parce que c'est un théâtre privé, on devait supprimer des places pour le rendre plus intime. Puis le metteur en scène Matthew Warchus a eu l'idée de mettre en scène une trilogie de Alan Ayckbourn qui était à l'origine fait dans une salle, une configuration quadrifrontale. Et ça, c'était le déclic. On s'est rendu compte que avec cette salle, avec tous ses défauts, on pouvait mettre du public sur la scène, les concentrer sur les côtés, le rendre beaucoup plus intime, beaucoup plus vivant, et le transformer sans le démolir. Donc ça s'est fait en 2008.
La référence, vous parliez de Shakespeare tout à l'heure, c'est le théâtre du Globe, évidemment, à Londres, dont il a été un temps copropriétaire, plutôt à la fin d'ailleurs. Il a brûlé pendant une représentation de Henri VIII en 1613. Il a été reconstruit en 96, alors soi-disant à l'identique. Est-ce que c'est un lieu qui vous plaît, Andrew Todd ?
Absolument. Je pense que Alors, c'est, la preuve, c'est que ça a beau être un modèle historique, une reconstitution qui aurait pu être muséale, mais avec des directeurs artistiques comme Mark Rylance, ça a eu une vie artistique florissante. C'est un endroit qui s'est rempli de vie, qui a trouvé sa justesse dans le contexte contemporain. Il suffit de penser aux Jeux Olympiques où ils ont invité les 36 spectacles shakespeariens à être présentés dans 36 langues différentes, globe to globe. Donc il y a vraiment quelque chose de pertinent aujourd'hui dans cette forme, même si là c'est fait avec les techniques de construction du XVIIe siècle.
Votre théâtre à Ardelot, il est en bois. Je crois que ce n'est pas du tout le cas du théâtre actuel du Globe, même si ça devait être le cas du théâtre originel. C'était évident depuis le début pour vous que ce devait être tout en bois ?
Tout à fait. Alors le bois, il faut comprendre, c'est un matériau aussi universel, millénaire, commun à toutes les cultures, mais qui vit un moment de gloire dans l'architecture contemporaine. On se vante de pouvoir faire des tours de 18, de 20, de 22 étages en structure bois, avec notamment un produit structurel qui s'appelle le bois lamellé croisé, c'est-à-dire des panneaux massifs structurels de bois. Alors moi, la réflexion qu'on a fait vraiment au tout début avec mon équipe au début du concours, c'était de dire qu'auraient fait les artisans de Shakespeare avec ces bâtiments tellement simples et vernaculaires qu'ils ont construits pour lui, qui ont donné cette ouverture sociale envers son écriture, avec les moyens d'aujourd'hui. Et il nous a paru d'une évidence que le bois, dans cette nouvelle état, dans cette nouvelle forme, c'est-à-dire formé sous vide, découpé par un robot issu de l'industrie automobile en Bavière, puis transporté, assemblé sur place avec juste quelques clés et quatre personnes, c'est à la pointe de la technologie constructive d'aujourd'hui, mais c'est un endroit où il fait ses preuves maintenant. Quand on rentre dedans, on pourrait croire que le bâtiment est déjà là depuis des siècles.
Le théâtre, il a été vandalisé dans la nuit du 17 au 18 juin à Ardelot avec des tags tels que « Élus irresponsables, honte à vous » ou « La dette », ce qui démontre, s'il en était besoin, que l'architecture est vraiment un enjeu politique majeur en tant à la fois qu'occupation de l'espace public et aussi d'utilisation des deniers publics. Comment vous l'avez vécu, cette dégradation-là, Andrew Todd ?
Au début, physiquement, charnellement, j'ai arrivé sur place très tôt le matin des événements avec Maurice Durosier du Théâtre du Soleil, qui m'accompagnait. Il allait se produire sur scène ce soir-là pour une sorte de soirée pré-inaugurale que j'avais organisée avec des artistes de toutes formes différentes, musique et théâtre. Donc j'étais avec lui. On découvre, en arrivant au fur et à mesure sur le site, des tags sur les pierres du pavillon d'entrée sur la route et puis éventuellement sur mon bâtiment. Alors, j'ai failli hurler comme une bête. J'ai décidé immédiatement de me calmer. J'ai vu que, enfin, je voulais pas déranger Maurice surtout, et j'ai compris que en fait les dégâts étaient irréversibles. Et cette expression était tout à fait intéressante parce que il a été très facile dans les prochains jours de s'y opposer ouvertement. Nous avons eu une déclaration d'Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et de la Communication, s'opposant à ces actes. Et ça a provoqué donc un débat sur précisément l'utilité, la valeur, la démocratie, l'ouverture et l'avenir de lieux juste comme ça.
Je travaille avec Micheline Rozan depuis des années et des années. Oui. Et un beau jour, c'est Micheline qui a découvert les Bouffes du Nord, qui a dit, il y a un lieu extraordinaire, il faut que tu le vois. Mm-hmm. Alors nous sommes venus ensemble, nous sommes entrés ici dans la poussière, et on a vu qu'il y avait quelque chose qui est la chose la plus précieuse, la plus difficile à définir, à expliquer, mais qui est une chose d'ordre très concret, qui est un lieu qui possède une âme. Ça se tient à toutes sortes de choses, aux proportions du lieu, et aussi au fait que ce lieu porte d'une manière très évidente ses plaies. On voit tout ce qu'a vécu et a souffert ce lieu. Ouais. Alors, nous sommes dit, il n'y a rien à faire, il faut trouver une manière de prendre ce lieu, de le rendre habitable.
Comment vous comprenez, c'était Peter Brook qu'on entendait à propos du théâtre des Bouffes du Nord qu'il a investi le premier. Comment vous comprenez cette préoccupation de Peter Brook pour les plaies d'un lieu, ce qu'il appelle les plaies de ce lieu ? Andrew Todd.
C'est très, très intéressant. Alors, il faudrait expliquer que mon rencontre personnelle avec Peter Brook a été déterminant dans mon parcours. Je l'ai rencontré à peine arrivé en France il y a une vingtaine d'années. Nous avons produit, en collaboration aussi avec son équipe, le livre The Open Circle qui relate toute son aventure spatiale. Peter est en quelque sorte un architecte, autant qu'un metteur en scène. Et ce rencontre m'a révélé quelqu'un qui avait une immense sensibilité envers l'espace, avec lequel je trouvais un accord profond. Alors ces questions de la plaie, de la ruine, je pense qu'il s'agit d'une attitude d'ouverture envers le temps, quelque chose que le mouvement moderne a plutôt rejeté. On est parti dans des bâtiments aseptiques, faits de l'instant. On est un peu dans ce trip maintenant aussi, avec les bâtiments développés par ordinateur pour une durée de vie de la prise de vue d'une cliché, et non pas pour la vie d'une société.
Vous pensez à quoi, par exemple, comme type de bâtiment qui se fait aujourd'hui ?
Il suffit de mettre le nez dehors et de regarder dans n'importe quelle revue d'architecture. Hein. Je pense que les exemples sont légion. C'est, je dirais, le mauvais côté un peu uniformisant de l'outil informatique qui permet de faire des formes extravagantes en 3D. On pourrait citer la Fondation Vuitton, non loin d'ici. Faut pas être simpliste non plus. Il y a quand même des exemples de grande architecture utilisant ces techniques. Mais je pense que une des problèmes majeurs de la modernité, c'est ce rejet du temps. Et le théâtre, et Peter est extrêmement sensible à ça, puisque le théâtre est le temps, c'est le temps réel, mais qui est projeté, qui est incarné dans un lieu qui a une durée de vie qui est plus longue que cet instant théâtral. Et il doit forcément y avoir un dialogue entre les deux. Alors, si on écoute n'importe quel créateur pour leur vrai démon pour la qualité d'un espace où ils ont envie de travailler, que ce soit des musiciens ou des metteurs en scène ou des chorégraphes, il revient souvent à ce terme d'âme, d'esprit du lieu, qui est quelque chose un peu d'indicible et qui nécessite, c'est plus comme faire un jardin que faire un bâtiment. Ça nécessite un certain abandon. Alors dans le cas de notre théâtre, c'est venu de manière un peu accidentelle. Pendant le chantier, le bois a un peu souffert des intempéries. Il a fallu en quelque sorte rénover le bâtiment avant qu'il soit né. Et ces traces du temps, ce caractère vivant du bâtiment, ces imprécisions qui lui confèrent un peu son caractère d'aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que je peux maîtriser à 100%.
Vous étiez à Avignon la semaine dernière, où il y a 10 jours, Andrew Todd, à Avignon, on joue dans des lieux inhabituels, on joue dans la cour du Palais des Papes, bien sûr, dans la carrière Boulbon, qui est cet espace un peu en dehors de la ville, qui est une vraie carrière avec des flancs de pierre à pic, on joue dans des chapelles, on joue dans des gymnases, là on a joué même dans un palais omnisport. Est-ce que vous y êtes attentif? Est-ce que c'est pour ça que vous allez à Avignon, pour voir des lieux différents, dans lesquels on joue différemment?
Oui, évidemment. Avignon, c'est une vibration immense. C'est toute la planète du théâtre qui s'y réunit, qui va voir des spectacles à tout moment de la journée. On a le plaisir des aléas d'être à l'air libre, de voir le vent déplacer les plumes à la fin des années. C'est cette perte de contrôle, cette rencontre avec le monde qui est si plaisant. Je pense que le Festival d'Avignon, alors la carrière Boulbon, par exemple, que Peter a découvert, qu'il a investi pour la première fois pour le Marbrat, je pense en 83.
85.
85, merci. A été utilisé de manière très très différente. Dernièrement, il y a eu une version du Marbrat dont le scénographe Gizo Junpei est un ami au Japon, où il a fait une sorte d'estrade en rond. Donc ça ouvre vers une interprétation, vers une multiplication, une expérimentation des espaces. Je pense qu'il y a un tout petit défaut, un tout petit critique que je ferai envers le Festival d'Avignon, c'est qu'il y a trop d'espace frontal, qui sont un peu mis à la chausse-pied dans des espaces remarquables, mais on a l'impression que ce sont un peu des produits de tiroir qui vont partir en tournée ailleurs. Et je pense une absence de vraie expérimentation spatiale dans ce festival.
Tous les jours, on demande à nos invités de la partie portrait de venir avec une musique qui pour eux est une musique d'été. Vous avez choisi ça. Really here, and it's time to come out, time to discover, we're finally so far. Andrew Todd, bon, les paroles sont à peu près claires, je pense, pour tout le monde, mais pourquoi vous avez choisi ce morceau-là?
Alors ça, c'est Here Comes the Summer de The Undertones, de 79. C'est un rappel très, très spécifique d'un moment de jeunesse. Ça possède aussi une énergie shakespearienne un peu débridée que caractérise le punk anglais de l'époque. Et pour moi, c'est important parce que The Undertones, c'est un groupe de Derry où il faut comprendre que l'été est plutôt imaginaire. Il pleut tout le temps là-bas. Et moi-même, ayant grandi juste de l'autre côté de la mer d'Irlande, dans le nord de l'Irlande, de l'Angleterre, j'étais un peu dans le même état d'esprit de me projeter vers le beau temps que j'ai fini par retrouver non longtemps après en m'installant pendant 6 mois à Los Angeles pour une bourse d'études. Qui était un moment de grand épanouissement culturel, personnel, la découverte de tout ce qui est vraiment bon et de grandeur d'esprit aux États-Unis et de l'été permanent de Los Angeles.
Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes venu en France, Andrew Todd ?
Alors, j'avais fait donc une licence en lettres à Cambridge avec une concentration sur le théâtre qui m'a mené vers des études en architecture. C'est en 10 ans d'ailleurs de l'espace vide de Peter Brook que tout ce sujet s'est ouvert pour moi. Et j'ai suivi des études d'architecture aux États-Unis auprès d'Ivan Illich, de Joseph Rickert, de grands intellectuels à l'université de Pennsylvanie à l'époque. Et j'ai rencontré mon épouse, Bridget O'Rourke, qui est une artiste américaine. Et diplômée en même temps, on devait mettre le cap quelque part. On a décidé, on parlait tous les deux français, on avait exactement les mêmes inconvénients ici, c'était très démocratique. Et on pensait qu'on allait le tenter pendant 2 mois, ça c'est il y a 20 ans donc. Et donc nous sommes maintenant profondément enracinés ici, nous demandons tous les deux la nationalité française, c'est devenu notre maison.
Vous demandez la nationalité française, d'autant plus depuis le référendum, le Brexit.
Précisément depuis. Il faut comprendre que le 24 juin, lors de l'annonce des résultats, était le jour de l'inauguration du théâtre. Donc je me suis levé ce jour-là dans un état de colère et d'incompréhension. Colère parce que la campagne s'est menée sur un fond de mensonges et de xénophobie. J'avais l'impression que mes compatriotes avaient été trichés et que je devais me déplacer dans le nord de la France pour inaugurer le premier théâtre de fond britannique en France. Ce jour-là, il fallait le faire quand même. Donc c'était dans une ambiance assez surréelle et c'était une décision, encore une fois, de tripe, de me rendre compte à ce moment-là que je m'appartenais ici plus qu'ailleurs, que j'étais devenu génétiquement européen. Il ne s'agissait pas de me mettre dans une situation où ça me serait enlevé.
Au-delà de cette réaction justement citoyenne, est-ce que c'est aussi un geste d'architecte qui croit en l'Europe de la création, Andrew Todd ?
Évidemment. Je pense que c'est idiot. Le monde de la culture n'est pas un monde des États-nations. C'est un monde de fluidité, d'échange, de compréhension, de contact, de collusion. Ça, c'est déjà fait. C'est n'importe quel référendum n'enlèvera jamais ça. Et le danger n'étant pas continental, et puis peut-être on ne le sait jamais, hein, c'est plein de risques politiques à l'avenir, se retrouvant avec des difficultés de mouvement ou d'échange institutionnel, on pourrait être coupé de ça. Donc il est clair que c'est un bain de 400 millions de personnes, et non pas les 60 millions du Royaume-Uni. Même si je vais bien évidemment rester britannique, je vais participer plus pleinement que jamais dans ce contexte élargi.
Vous dites qu'aujourd'hui, la meilleure architecture en Europe, elle se fait en Suisse et en Espagne. C'est étonnant parce que c'est deux contextes politiques et artistiques très différents, la Suisse et l'Espagne, Andrew Todd.
Alors, la Suisse, c'est un cas particulier. Je l'alignerai peut-être avec la Norvège, où ça revient avec un contact avec la nature. C'est un pays où les contraintes physiques, climatiques sont omniprésentes. Je pense que c'est pas un hasard que les deux pays que j'ai cités se sont passés du postmodernisme dans leur parcours architectural. Les gens se posent pas trop de questions d'ordre théorique. Ce sont des cultures architecturales qui sont impliquées par le physique, par les métiers de main, par la réalité des choses, par le temps aussi, ce qu'on s'y confronte. Il pleut, il neige, etc. Et c'est ça qui a donné une certaine pragmatisme et pureté et élégance à leur tradition architecturale qu'on manque peut-être dans des pays où on peut réfléchir un peu trop.
Vous dites que vous ne comprenez pas comment on peut travailler aujourd'hui comme les grosses boîtes entre guillemets d'architectes à des centaines de gens, voire des milliers de gens. Vous avez cet idéal de Le Corbusier qui travaillait avec 20 personnes maximum. C'est votre cas. Comment vous travaillez concrètement, Andrew Todd, dans votre cabinet ?
Moi-même, je me considère à 48 ans un très jeune architecte. Vraiment en début de parcours, ça c'est un des grands plaisirs de ce métier, c'est que ça s'apprend très très lentement. Je pense que c'est une erreur, c'est difficile de trop faire trop jeune, et il faut vraiment être très très humble devant les défis du métier.
Comment vous expliquez ça ?
Il y a juste tellement de choses à apprendre. Juste un point de vue de comment construire, toute la panel de matériaux qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître. Il faut comprendre un peu les gens quand même. Il faut se comprendre soi-même. Il faut une certaine ouverture d'esprit. Et ce ne sont pas forcément des choses qu'on a quand on est jeune. Une autre forme d'énergie, d'ouverture, de découverte. Donc je pense que c'est vraiment un métier de la maturité où moi j'entends et j'espère grandir raisonnablement et lentement. Je n'ai rien contre, il y a des très très grands créateurs qui ont des grosses agences. Je pense par exemple à Herzog & de Meuron, qui ont une énorme attention à la matière, à la fabrication de l'architecture. Donc ce n'est pas du tout contradictoire. D'ailleurs, c'est une usine très très riche, avec une culture et maintenant une histoire qui est extrêmement importante. Mais bon, dans mon cas, c'est l'avenir qui va voir.
Et vous êtes combien du coup dans votre cabinet ?
Alors, par exemple, sur le projet d'Art de l'eau, on était 5 collaborateurs sur ce projet à plein pot depuis 3 ans.
Merci beaucoup à vous, Andrew Todd. On souhaite longue vie au théâtre élisabétain que vous avez installé au château d'Art de l'eau à Condette. Et votre dernier ouvrage, je le signale, est en anglais, mais on peut le trouver en France et il s'appelle Common Sense.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Como.
Et on inaugure une nouvelle chronique dans la grande table d'été, ça s'appelle Les coulisses d'un événement, qui sera diffusé tous les vendredis dans l'émission, en partenariat avec le journal du dimanche. Aujourd'hui, c'est Marie-Laure Delorme qui raconte un projet documentaire de l'actrice Anne Consigny.
Bonjour. Pour Les coulisses d'un événement, je vais vous parler aujourd'hui de l'actrice Anne Consigny et de son projet de documentaire. Nous sommes en 2014. Anne Consigny loue une chambre par Airbnb dans son appartement parisien. Elle laisse les clés chez le gardien. À son retour, deux femmes arméniennes. Une mère de son âge, Susanna, 51 ans, et une fille de l'âge d'un de ses fils, Narine, 26 ans. La fille ressemble à une Marilyn Monroe arménienne, à la fois belle, joyeuse, sexy. Anne Consigny découvre les plis et replis de leur histoire. La jeune Narine est atteinte d'un cancer du poumon. Les médecins arméniens ne lui donnent plus que 15 jours à vivre si elle reste en Arménie. Son unique chance de survie est de se faire soigner en Europe. Le père met 2 longs mois à réunir l'argent. Il vend la maison familiale pour financer les soins médicaux en France. Narine part se faire soigner à Paris. Elle et sa mère vont y rester durant 5 mois. Les deux femmes entrent dans la vie de la comédienne comme des sœurs choisies et n'en sortiront plus. De simples locataires, elles deviennent amies. Anne Consigny imagine le père, chauffeur de taxi, roulant seul avec sa douleur. Il a tout sacrifié. Quand elle pose des questions sur lui, la mère et la fille lui répondent en chœur, il pleure tout le temps. Narine meurt à Paris début novembre. L'actrice d'Alain Resnais et d'Arnaud Desplechin décide de concevoir un documentaire sur le père. Elle veut raconter la vente de la maison familiale. Elle veut raconter le père seul à son volant toute la journée. Elle veut raconter la mère discrète et la fille exubérante. Elle veut raconter nous face à la mort. Et puis aussi la France, la peur de l'étranger, l'amitié. Anne Consigny écrit un scénario, achète une caméra, engage une assistante pour le son. elle accompagne Susanna lors du voyage de retour en Arménie. L'enterrement a lieu le 11 novembre 2014 à Erevan. Le temps est magnifique. Comme le veut la tradition, le cercueil est ouvert et Narine revêtue d'une robe de mariée. Anne Consigny découvre que la famille fait partie des plus pauvres en Arménie. Ils vivent maintenant à 5, 3 enfants et 2 parents, dans 3 petites pièces microscopiques, sans toilette, sans eau chaude. Le cœur de son documentaire est la vente de la maison familiale pour financer les soins médicaux de Narine. Mais nous sommes dans les faits, pas dans la fiction. Sur place, quelque chose va bouleverser entièrement le scénario du documentaire. Aujourd'hui, Anne Consigny est à la recherche d'un producteur. Elle songe à appeler son premier film d'une expression arménienne « Je prends ta peine ».
C'était la chronique de Marie-Laure Delorme en partenariat avec le JDD. Vous retrouvez l'entretien en intégralité dans le journal ce dimanche. La grande table d'été s'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve lundi avec une table ronde sur Lucky Luke à l'occasion des 70 ans du héros. Et puis le portrait sera celui du clarinettiste Henri de Marquette.
Merci à toute l'équipe de la grande table d'été présentée par Lucille Como avec la collaboration de Aïssa Twendoy, Boris Pinault, Anne-Catherine Lochard, Lila Bozès, Lucie de Pertuis et Anna Baron. À la réalisation Alexandra Malka, aujourd'hui à la technique Thibaut Germèze et au droit d'auteur Thomas Bizot. Vous pouvez réécouter l'émission et la podcaster sur franceculture.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux.
Merci Anna.